peut dire l'abstrait et le concret, quand l'intelligence rejoint l'éternel, au-delà de tout changement, il est immuable. Comprendre que toute créature et avant tout l'homme, puisque c'est cela que nous regardons et que nous contemplons dans ce regard de sagesse, l'homme implique cette mutabilité radicale d'être celui qui peut ne pas être. Voyez, c'est là on pourrait reprendre ce que certains mystiques ont dit. Je pense à Catherine de Sienne spécialement, quand elle dit que la créature est non-être avant d'être. Je crois que c'est important pour nous de souligner que dans ce regard contemplatif, nous pouvons dire que la créature apparaît radicalement comme non-être avant d'être. Dans tout être en devenir, la puissance est antérieure à l'acte, dit Aristote. En tout être en devenir, la puissance est avant l'acte. Radicalement, le devenir de la sagesse, de la créature, c'est ce passage du non-être à l'être, tout le problème de la création. Et ceci demeure toujours. C'est une vision métaphysique, c'est une vision au-delà du temps, ce n'est pas une vision temporelle. C'est une vision de sagesse. Et donc on peut dire que cela demeure toujours. Le non-être, le rien est antérieur à l'être dans cette vision pour chacun d'entre nous. Voyez, ça rend raison, et c'est ça qui est important pour nous à comprendre, ça rend raison de ce qui peut y avoir de vrai dans cet aspect de la modernité, puisque c'est ça, je crois, qui caractérise l'aspect de la modernité au plan philosophique, de mettre le néant avant l'être. Il faut pouvoir philosophiquement expliquer cela. C'est pas suffisant de dire il y a une erreur, il faut l'expliquer, parce qu'il y a toujours dans une erreur quelque chose de vrai. Et c'est ce quelque chose de vrai que nous devons retrouver dans le jugement de sagesse, en comprenant que dans la lumière de l'immutabilité de Dieu, dans l'homme, en tant que créature, le non-être, le néant, est antérieur à l'être. Ce qui fait comprendre que lorsque la sagesse philosophique disparaît, c'est-à-dire qu'on ne se met plus dans une perspective de sagesse contemplative, parce qu'on ne regarde plus à partir de l'immutabilité de Dieu, on garde la conclusion sans la lumière qui justifie la conclusion. Et alors, on continue de dire le non-être est antérieur à l'être. Alors, ce serait intéressant, au point de vue histoire de la philosophie, de voir à quel moment il y a eu cette déviation où cette laïcisation très radicale de la pensée philosophique. Et c'est un des aspects, je crois, très importants pour nous à saisir. Parce que tant qu'on ne l'a pas saisi, nous risquons toujours de nous laisser séduire par cet aspect philosophique moderne qui inverse tout. Une fois que vous acceptez cela, vous ne pouvez plus découvrir l'existence de l'être premier. Alors, vous arriverez à la position très noble, comprenez bien, très noble de Heidegger, parce que je crois que parmi les philosophes modernes, la position heideggerienne est la plus noble. Ou Lévinas, hein, on aurait la même chose. Ce sont des positions qui ont une très grande noblesse philosophique, mais qui sont des impasses. On peut être, on peut demeurer dans une certaine noblesse de l'esprit et rester dans une impasse. C'est-à-dire ne pas arriver à aller jusqu'au bout. Si vous commencez par le non-être, vous ne découvrirez jamais la primauté de l'acte. Et donc vous ne pourrez jamais sortir de cette ornière fondamentale de la primauté du non-être sur l'être. Mais je crois que c'est pour ça que si je commence ma philosophie avec Heidegger, je ne peux pas, c'est une impasse. Je ne peux pas dire à partir de Heidegger, je vais retrouver saint Thomas. Non. Parce que c'est la tentation d'aujourd'hui, vous voyez, c'est la tentation de dire, je vais me mettre, tentation permanente, je vais me mettre dans la connaturalité de notre monde d'aujourd'hui. Je me mets d'abord tout proche de la pensée moderne pour retrouver ensuite la vérité. Je ne peux pas, à partir d'une erreur, redécouvrir la vérité. Mais je peux, à partir d'une expérience de la réalité, redécouvrir la vérité. Oui. Comprenez bien ce que je dis ici, parce que je crois que c'est quand même très important pour, je dirais, pour notre attitude même, pour essayer de conduire vers la vérité. Il y a une tentation permanente, hein. C'est la vieille tentation. Et alors on la trouve dans l'écriture d'une façon très étonnante, hein, ce petit passage qu'on doit aimer beaucoup, David en face de Goliath. Pour moi, c'est extraordinaire, ce passage. David en face de Goliath. Hein, David, petit berger, courageux, très courageux, merveilleusement courageux, qui n'a pas peur du lion. En face de Goliath, on veut lui donner une armure semblable à celle de Goliath. Et c'est normal. Alors il prend l'armure du roi, Saül, et puis il est empêtré dedans. Alors comme il est intelligent, il a suffisamment de vitalité pour la renvoyer promener, cette armure, et aller en face de Goliath avec sa petite fronde. Alors le combat semble complètement inégal. Et c'est avec sa petite fronde, avec l'astuce, son intelligence, vous voyez, je pense toujours à ce pygmée vu au Cameroun, en disant, oui, l'éléphant, il est plus gros que moi, mais il n'a pas l'esprit. Je trouve ça admirable parce que tout est dit là. Et c'est exactement ça, David en face de Goliath, si vous voulez. Et il y a quelque chose que Goliath n'a pas. Il n'a pas la foi en son Dieu. Il n'a pas la lumière de l'esprit. Il croit que c'est par l'efficacité, la puissance, on dirait la quantité, la puissance de l'armure qu'il pourra être toujours victorieux. Et David, lui, il croit à la qualité, au primat de l'acte sur la puissance. Et bien, c'est exactement ça le combat dans lequel on est aujourd'hui, qui est un combat spirituel, hein, qui est un combat d'ordre de l'intelligence. Il ne faut pas l'oublier. Le démon, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel. Et le premier des intellectuels. Alors, il veut, lui, pervertir l'intelligence de l'homme. Je peux le dire au point de vue philosophique, ça, parce que j'ai le droit de regarder ce qui se passe autour de moi. Hein. Je suis dans un jugement de sagesse. Je dois essayer de comprendre comment tous les express au tournant déraillent. Je dois regarder cela, et même les théologiens. D'où vient cette erreur? C'est, je crois, dans ce jugement de sagesse, à partir de l'immutabilité de Dieu, que je comprends. Il y aurait la simplicité et l'immutabilité, les deux se tiennent, hein, puisque je dis que Dieu est immuable parce qu'il est simple. C'est la même chose, si vous voulez, c'est la simplicité de Dieu qui commande tout cela. Mais l'immutabilité me donne un jugement de sagesse plus immédiat. Puisque la simplicité me montre la composition, l'immutabilité me met en face de cette capacité de changement, de capoté. L'être humain est un être qui peut mettre la négation avant l'être. C'est extraordinaire, du reste, de voir ça. Parce que, de fait, en moi, dans un jugement de sagesse, le néant est avant l'être. Mais c'est en ce sens-là que toute créature a une saveur de néant. C'est pas très drôle. Il y a une saveur de néant. Il y a en nous, nous portons en nous toujours, hein, nous portons en nous toujours cette capacité radicale à ne pas exister. Et c'est pour ça que quand on parle d'angoisse métaphysique, c'est ça que ça veut dire, hein. Alors, il y a tout un halo imaginatif, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'angoisse métaphysique. C'est sûr, il ne peut pas y avoir d'angoisse métaphysique, parce que je peux regarder le néant premier par rapport à l'être dans une vision de sagesse. Et ce n'est que dans une vision de sagesse que je peux le faire. Vous voyez, ça c'est l'armure du petit David. C'est la fronde. Ma fronde, c'est de considérer que Dieu est avant moi. Ça paraît complètement idiot, hein, de dire ça. Parce que c'est tout à fait élémentaire. Mais c'est ce qu'on oublie. Mais l'angoisse, c'est l'oubli de la primauté de l'expérience et de la primauté de l'acte avant la puissance. Et de mettre la puissance avant tout. Alors là, nous sommes dans un terrain miné, métaphysiquement miné. Parce que si la puissance est antérieure à l'acte, vous ne pouvez pas en sortir. Alors c'est ça que je veux vous faire comprendre, parce que je crois que ça, c'est très important. Il faut y réfléchir longuement, parce que ça ne se découvre pas tout de suite. Il faut y réfléchir très longuement. En pensant toujours à ce combat de David face à Goliath, à ce combat devant lequel nous sommes, hein, de comprendre que notre tentation permanente, c'est de vouloir nous adapter métaphysiquement à la pensée moderne. Alors nous partons avec Heidegger. Et c'est très beau de commencer avec Heidegger, c'est extrêmement beau, parce que Heidegger est quand même très séduisant. C'est comme si dans l'Antiquité on avait commencé avec Platon. C'est très grand de commencer sa philosophie avec Platon. Soyez d'abord platonicien. Soyez d'abord heideggerien. Vous n'en sortirez pas. Platon reste dans le ciel des idées. Heidegger reste dans l'abîme du néant. Et ça se tient. C'est assez curieux, ça se tient, les deux. Parce que des deux côtés, il y a une primauté de la forme, de la qualité et du néant. Vous voyez, primauté de la qualité, vous voyez, par rapport à l'être. Et donc, en définitive, nous n'atteignons pas l'être. Et donc, si on n'atteint pas l'être, il y a toujours la primauté du néant. Parce qu'on n'atteint pas l'acte. Alors, si on s'engouffre dans cette perspective-là, qui est très séduisante, hein, on ne pourra jamais en sortir. Et c'est ça qui est très important dans notre monde d'aujourd'hui. Parce qu'on touche quelque chose de très fondamental, vous voyez. En touchant quelque chose de très fondamental, il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y a une conversion radicale de l'intelligence qui est nécessaire pour éviter cette perversion de l'intelligence. Parce que la grande perversion de l'intelligence, la perversion la plus radicale de l'intelligence, c'est de mettre le non-être avant l'être. C'est de mettre le néant avant l'être et de croire que c'est par le non-être qu'on va découvrir l'être. Aristote disait déjà ça. C'est intéressant du reste de voir qu'il le disait déjà. Quand il dit « les théologiens mettent le néant avant l'être ». Et là il faisait allusion évidemment à Hésiode. Parce que Hésiode considère que l'abîme est premier. Et on peut dire que l'abîme à la manière d'Hésiode, c'est au fond d'une certaine manière le non-être. Le non-être peut avoir quelque chose d'abyssal, hein, peut avoir quelque chose de radical. C'est mettre le fondement avant la finalité. C'est d'une autre manière de regarder cela. Dans la philosophie moderne, j'ai dit dans la philosophie moderne, avec Heidegger, au sommet de cette philosophie moderne. Parce que je crois que Heidegger reste dans cette philosophie moderne celui qui a saisi l'impasse, on a oublié l'être. Ça, c'est le cri de l'enfant dans le désert. On a oublié l'être. En face de Nietzsche. Il ne faut pas l'oublier. Heidegger dit ça en face de Nietzsche. Il dit Nietzsche a été tellement loin qu'on est obligé de tout reprendre. En face de Nietzsche, Heidegger dit « on a oublié l'être » et il veut retrouver l'être à partir du non-être. Donc là, il reste moderne, il reste avec l'armure semblable à celle de Goliath. Il reste avec la même armure, la même méthode que Hegel, le non-être avant l'être. Et il veut en sortir, et il n'en sort pas. Alors, tout le mérite de Heidegger, c'est d'avoir crié « on a oublié l'être ». Je dirais que ça, c'est le grand mérite de Heidegger. C'est quand même énorme de dire ça, c'est quand même très courageux. Hein. C'est pour ça que c'est le petit David, il crie. Et c'est le petit David qui est lié à l'armure de Saül, qui n'a pas encore assez le courage de reprendre sa petite fronde. Et de pouvoir dire, c'est très vrai, c'est l'expérience de la réalité existante qui va me permettre de redécouvrir l'être. Le jugement d'existence, la petite fronde de David, c'est le jugement d'existence, c'est ce contact avec le réel et avec moi-même, hein, ce contact direct de l'intelligence avec la réalité qui existe. La réalité qui existe proclame la primauté de l'acte sur l'être, sur la puissance. La réalité qui existe. Chacun d'entre nous, hein, nous sommes témoins sans le savoir. Mais métaphysiquement, dans la vision de sagesse, chacun d'entre nous, du fait même que nous existons, nous proclamons la primauté de l'acte sur l'être, sur la puissance. Mais nous proclamons cette primauté dans la plus grande fragilité, jugement de sagesse. Dans la créature, le non-être est avant l'être. Et la créature n'existe que parce qu'elle reçoit l'essai de Dieu. Donc elle est radicalement dépendante. Essayez de comprendre, je prends exprès ce symbolisme de David et de Goliath parce que c'est quelque chose de très impressionnant, ça. Quand on essaie de comprendre un peu la lutte intellectuelle, philosophique dans laquelle on est. Que Heidegger a très bien vu, ça il faut le reconnaître, il a très bien vu qu'après Nietzsche, c'est où on reste avec Nietzsche, volonté de puissance. La volonté de puissance peut arriver à conduire, on sait très bien, à la position politique d'Hitler, la position politique de la nouvelle droite en France. C'est très très curieux tout ça, parce que c'est là où on voit combien les positions métaphysiques, quand elles vont jusqu'au bout, commandent immédiatement une vision anthropologique et une vision concrète, existentielle. C'est là où on voit combien la philosophie n'est jamais abstraite, dans le sens où on parle de l'universel. La métaphysique reste toujours liée à la réalité singulière. Toujours. Mais on ne le voit pas toujours parce que nous ne sommes pas assez intelligents. Nous restons intellectuels. Vous voyez, avec ce mode de repliement sur notre manière de penser. Et notre manière de penser est l'abstraction. Et parce que notre manière de penser est l'abstraction, l'universel passe avant le principe. Peu de personnes atteignent l'universel, encore moins atteignent le principe. Quand vous atteignez le principe, vous restez toujours lié à un principe philosophique, à un principe métaphysique de l'être en acte. Vous restez toujours lié à la réalité qui existe. Tandis que si vous avez ce repliement sur vous et que c'est votre manière de connaître qui passe avant, l'universel enveloppe tout et donc vous restez dans l'abstrait. Et vous avez le primat de la logique. Et c'est ce primat de la logique, vous voyez, qui fait qu'on ne voit pas d'issue. C'est important de saisir, si vous voulez, dans cette lumière de sagesse, puisque cette lumière de sagesse que nous essayons de comprendre doit nous permettre de voir que tout ce que nous voyons en philosophie a une répercussion immédiate dans notre vie concrète. C'est très curieux. Évidemment, on peut toujours, grâce à la foi, jusqu'à la fin de sa vie, boiter. C'est-à-dire dire « je suis croyant, je ne comprends rien du tout, mais je continue de ma vie de foi ». Ça, c'est très bien, c'est très bien. On doit toujours comprendre que grâce à la foi, on peut être sauvé. Ça, c'est le point de vue du fidéisme pratique. Je n'y comprends rien, mais je crois. C'est l'essentiel. Enfin, vous serez sauvé. Mais si vous voulez éviter cette corruption, cette perversion de l'intelligence dans laquelle on se trouve, il faut que nous puissions faire que notre intelligence se convertisse. C'est une conversion de l'intelligence, mais très très radicale, parce que sans le savoir, nous sommes tous un peu cartésiens, kantiens, nietzschéens, en passant par Hegel. N'est-ce pas ? On l'est tous. Alors, il faut saisir le point de la vulnérabilité la plus radicale de notre intelligence, la séduction du primat du non-être sur l'être. Tant vous n'avez pas saisi cette séduction de la primauté du néant sur l'être, vous risquez toujours de vous laisser emporter par ce que représente cette emprise de la dialectique hegélienne sur la pensée moderne. Et c'est proprement cette primauté du néant sur l'être. Et alors, ce qui est intéressant ici, et c'est pour ça que j'insiste, ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce qu'il y a de vrai dans cette séduction. Ce qu'il y a de vrai dans cette séduction, c'est que dans un jugement de sagesse, à partir de l'immutabilité de Dieu, je dois dire que dans l'homme, le néant est avant l'être. Et en disant ça, je vois ce qu'il y a de vrai dans ce que j'appelle la modernité de notre philosophie, cette primauté du néant sur l'être, cette primauté de la négation sur l'affirmation. Je vois ce qu'il y a de juste et je vois en même temps l'erreur fondamentale. Et l'erreur fondamentale, c'est que justement, on laïcise une conclusion de sagesse. Laïciser une conclusion de sagesse, c'est se mettre dans l'impasse complète. Et c'est ça rester dans une espèce d'ontologisme, au fond. C'est un ontologisme. C'est l'ontologisme radical, ça. C'est d'oublier que c'est dans une vision de sagesse que je peux dire ça. Alors, essayez d'y réfléchir, et si vous avez des questions là-dessus, notez-les. Parce qu'il s'agit de libérer votre intelligence de ça. Et de comprendre que si vous partez de ce point de vue-là, si vous partez de la primauté du non-être sur l'être, si vous partez dans la perspective heideggerienne, parce que Heidegger, avec toute sa bonne volonté, reste encore ligoté, aliéné intellectuellement à la dialectique hegélienne. C'est extrêmement curieux, mais c'est un fait, hein. Vous n'avez qu'à lire Heidegger un tout petit peu en le sondant et vous le verrez. Alors évidemment, il ne faut jamais le dire, ça, dans une dissertation au point de vue sorbonnarde. Il ne faut jamais le dire, ça. C'est beaucoup trop dangereux. Ça fait sauter toute la boutique. Alors si on fait sauter la boutique, vous comprenez, c'est très gênant. Il ne faut surtout pas le dire. On le dit pour soi. On essaie de comprendre. On essaie d'être intelligent pour essayer d'aller jusqu'au bout de la vérité. Mais je crois que c'est très très important, vous voyez, ce que Heidegger saisit quand il dit qu'avec la pensée nietzschéenne, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Alors là, c'est vraiment le cri de l'enfant dans le désert. On a oublié l'être. Et c'est vrai que si vous mettez la primauté sur la négation sur l'être, vous avez oublié l'être. Vous avez oublié l'être parce que vous restez dans le devenir. Dans le devenir, la puissance est antérieure à l'acte. Et donc, si vous mettez d'une façon absolue la négation avant l'affirmation, ça prouve que vous restez dans le devenir. Or, si vous restez dans le devenir, vous n'arriverez jamais à atteindre l'être à partir du devenir. Cherchez bien. Vous n'arriverez jamais à partir du conditionnement d'atteindre la finalité. Jamais. Il y a quelque chose de nouveau qui nous fait atteindre ce qui est jugement d'existence. Il y a quelque chose de nouveau qui nous fait atteindre la finalité, l'amour. Vous n'atteindrez jamais l'amour à partir de la haine. Jamais. Celui qui est dans la haine ne va pas dire « je vais aller jusqu'au bout de la haine et je vais retrouver l'amour ». Et ça, c'est l'ivrogne qui dit « je vais boire le plus que je peux et au bout d'un certain temps, je retrouverai l'équilibre ». À allez-y, vous verrez, vous en creverez, c'est tout. Parce qu'on en crève. Si vous allez jusqu'au bout de la haine, si vous allez jusqu'au bout du conditionnement, si vous allez jusqu'au bout du devenir, mais vous n'atteindrez jamais l'être. Si vous allez jusqu'au bout du néant, vous n'atteindrez jamais l'être. Vous n'atteindrez jamais l'acte. Et c'est bon de saisir toutes ces impasses. Ça, je crois que c'est très important de saisir toutes ces impasses. Toutes ces impasses modernes devant lesquelles nous nous trouvons. Et nous voyons que des quantités se laissent séduire par ces impasses avec une très bonne volonté, avec des intentions très bonnes, moralement parlant. Mais ils se laissent prendre par cela et ils n'ont pas assez de vitalité intellectuelle. C'est une question de vitalité, ça. Ils n'ont pas de vitalité au sens philosophique, c'est-à-dire de reprendre tout à l'origine, à la racine. Vous savez, c'est comme quand vous avez... C'est très facile à comprendre, on fait ça au point de vue pratique, on fait ça constamment. Quand vous êtes au point de vue dans une impasse, au point de vue de la route, vous avez pris une fausse route. Ça arrive, hein. Vous êtes tourné trop vite. Vous avez quitté l'autoroute un peu trop vite. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, si vous êtes astucieux? Vous revenez au moment où vous êtes trompé. Parce que si vous continuez indéfiniment, ben vous en ferez des kilomètres. Hein. Alors, on pourra toujours retomber sur ses pattes au point de vue pratique, c'est sûr, mais au point de vue philosophique, quand vous êtes dans une impasse, dans une ornière, vous n'arrivez pas. C'est très curieux, ça. Et je crois que ça, c'est très important de le saisir. David en face de Goliath. Donc, dans une vision de sagesse philosophique, métaphysique, je peux dire que dans l'homme, le non-être est avant l'être. Je peux peut-être saisir encore un peu plus, si vous voulez, c'est de saisir que dans toute créature, et donc dans l'homme, il y a cette chose très curieuse, la distinction de l'être et de la vie. Nous l'avons vu, hein, je le reprends pour vous remettre dans la piste, parce que c'est quand même très important, et on le reprend en allant un peu plus loin, parce qu'il faut toujours aller plus loin dans cette vision. Saisir que le vivant que je suis, que nous sommes, nous sommes des vivants. Dans le vivant, et le vivant crée. Le vivant fait la synthèse de l'être et du devenir. Parce que dans le vivant, il y a le repos. Alors, c'est toute la question de l'immutabilité du repos. Ce serait très intéressant à bien voir, ça. Vous voyez, le Bouddha immobile, hein, très important. Je vous ai déjà dit, cette petite exposition il y avait quelques temps que j'avais vue à Paris, qui m'avait beaucoup intéressé. Elle était tellement extraordinaire, elle était faite avec une intelligence remarquable, au point de vue sculpture. On donnait la sculpture grecque et la sculpture de l'Inde, avec le Bouddha et le point de vue grec. Et on voyait que le grec avait saisi le mouvement. Et que l'Inde cherchait le repos. C'est très curieux, mais c'est très intéressant. Vous savez, c'est comme un petit peu le passage de l'Égypte à la Grèce, hein, de voir que l'Égypte est hiératique. La sculpture grecque apporte le sourire. C'est quand même extraordinaire. Parce que c'est pas hiératique, le sourire. Ça peut être ironique. C'est peut-être quelque chose d'extraordinaire, c'est juste l'inverse. Et ça, c'est très très fort au point de vue art, de voir que de fait, la Grèce apporte le sourire. Et en apportant le sourire, alors on humanise tout. C'est pas pour rien qu'on dit que le propre de l'homme, c'est de sourire. quand il n'y a plus de sourire, il n'y a plus d'homme. Il y a des bouddhas et des crocodiles. Oui, parce que vous savez bien, l'Égypte dit, cet animal sacré qu'est le crocodile, il garde le silence. Et le crocodile ne sourit pas. Le sourire du crocodile, ça, je crois que ça ferait trembler l'univers. Ce serait quelque chose d'affolant. Bon, c'est très très joli ça, de dire le crocodile c'est l'animal le plus divin parce qu'il garde le silence. Et les Grecs disent, ah non, il y a le sourire. C'est très très beau ce passage où on redécouvre l'homme par le sourire. Tous ceux qui ont été à Athènes et au musée d'Athènes, c'est pas dit comme je le dis, hein. Il suffit de comprendre parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Mais si vous êtes attentif au passage de la sculpture égyptienne à la sculpture grecque, vous voyez le sourire qui apparaît. Et pour nous, c'est très important. On pense toujours au sourire de Jésus sur la croix. L'Érins nous apporte le sourire de Jésus sur la croix. Parce qu'on garde ce Christ du XIIe siècle. C'est au XIIe siècle qu'on voit des Christs qui sourient. Alors, il n'y en reste plus beaucoup. Parce que ce n'est pas commode le sourire à la croix. Pas commode du tout. Et le sourire de Marie, ça va très loin ces choses-là, parce que ça montre, voyez, la joie au milieu de la souffrance. Ça montre la victoire de l'amour sur la douleur. Et la victoire de l'amour sur la mort. Un mort ne sourit plus. Il est erratique. De façon extraordinaire. Alors que le sourire montre un autre chose. Alors, c'est pas la primauté du mouvement, le sourire. Hein. C'est très curieux. C'est pas la primauté du mouvement. Mais le grec a saisi le mouvement dans la créature, dans l'homme. Il a saisi le sourire et le mouvement. Et je crois que ce serait intéressant à bien saisir ces deux aspects-là. Parce que ça me semble typiquement humain, ça. Le sourire et le mouvement. Alors, ce que je veux dire ici, je reviens au jugement de sagesse. Dans la lumière de l'immutabilité de Dieu, j'essaie de saisir l'image, le reflet de cette immutabilité. Et je retrouve l'image de cette immutabilité dans le vivant. Le vivant est un être capable de se reposer. C'est bien l'affolement, c'est qu'on n'arrive plus à dormir. Il n'y a rien de plus affolant que ça. Vous ne retrouvez plus l'immutabilité de Dieu. Pensez-y, alors à ce moment-là, vous retrouverez le repos. C'est de l'homéopathie, ça. Parce que vous retrouverez à l'intérieur la possibilité de vous reposer. Et c'est vrai, il n'y a rien de plus affolant que de ne pas pouvoir dormir. Parce que plus vous y pensez, plus vous vous agitez, et moins vous voyez la possibilité du repos. Le vivant, c'est un être qui a besoin de se reposer. L'être, c'est un être qui est au-delà du mouvement. Le vivant, c'est un être qui est dans le mouvement. Vous savez bien, c'est celui qui se meut. C'est la bonne réflexion de toute bonne mère de famille quand elle regarde son petit. Ah, il ne va pas bien, il ne bouge plus. Tant qu'il est un peu dans l'agitation, ça va, parce que il monte sa vie. Il s'agite, quoi. C'est normal, quoi. Il est un peu dans. Il s'agite un peu trop de temps en temps, mais au moins il s'agite. Il y a un peu de fièvre, ça va. Tandis que, je ne sais pas ce qu'il y a, il ne bouge plus. Il devient bouddhique. On est un petit bouddha, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une espèce de faux repos. De faux repos. Alors, il faut saisir comment l'être est au-delà du mouvement. et comment la vie intègre le mouvement. C'est très différent. La vie intègre le mouvement. Mais la vie intègre le mouvement d'une façon telle que le vivant peut se reposer. Il y a le phénomène du repos dans le vivant. Et on doit essayer de comprendre, dans la lumière de l'immutabilité de Dieu, ce phénomène du repos à l'intérieur du vivant. Je crois qu'on peut dire, dans un jugement de sagesse, que le repos du vivant, c'est comme l'écho, l'image ou le vestige. Alors là, il faudrait bien préciser. Mais je peux le dire sans préciser maintenant. Je crois qu'il faudrait dire le vestige de l'immutabilité. C'est dans le repos du vivant. Et l'image de l'immutabilité, c'est dans le repos de la contemplation. Alors il y a les trois moments qui seraient très intéressants. Esse, vivere, intelligere. L'esse est au-delà du mouvement. Le vivere, le vivant, intègre en lui, dans son mouvement, il intègre le repos. Le vivant est celui qui est capable de se reposer. Il est capable de dépasser le mouvement en se reposant. Alors, voyez, faites attention, parce qu'alors vous allez me dire, oh, ça c'est magnifique, vous touchez quelque chose de très important, on est beaucoup plus vivant quand on dort que quand on est éveillé. Alors là, c'est la spiritualité de dormir le plus longtemps qu'on peut pour pouvoir justement être plus vivant, parce qu'on est plus à l'image de l'immutabilité de Dieu. J'ai jamais été tant à l'image de l'immutabilité de Dieu que dans mon repos. C'est vrai qu'il y a le repos. Il faut saisir ce que c'est. Hein. Parce que, au point de vue philosophique, je constate le repos du vivant. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vois cette chose très curieuse, hein, que tous les vivants ont une phase d'agitation, de mouvement, de croissance et de repos. Il y a la nuit et il y a le jour. Il y a l'hiver et le printemps. Commence à pousser au printemps, mais la sève qui monte. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La sève qui remonte et la sève qui s'éteint à l'automne, hein, pour arriver à une espèce de moment où toute la nature dort. Le repos du vivant, hein. Il faut réfléchir sur le repos du vivant, le vestige de l'immutabilité de Dieu. Et le vestige de l'immutabilité de Dieu marque le vivant. Qui a, au-delà de ce s'émovere, le vivant c'est celui qui se meut, je ne dis pas celui qui s'agite, mais celui qui se meut. Et le vivant, quand il se meut selon un rythme. Quand il est dans l'agitation, vous voyez, il n'y a plus le rythme. C'est propre de l'agitation. C'est la différence entre le mouvement du vivant qui est harmonieux, qui a un rythme, tout vivant a son rythme, et le propre du vivant, c'est de se mouvoir avec un rythme. Et quand il tombe dans l'agitation, il perd son rythme, et il perd son repos. Tandis qu'au contraire, le propre du vivant, qui implique un rythme, c'est qu'il y a un moment de repos. Ça fait partie du rythme du vivant. Il y a un moment. Et c'est très important pour saisir le rythme du vivant, de saisir le moment où il doit se reposer et le moment où il ne doit plus se reposer. Et le rythme entre les deux, celui qui dort trop, ben, il perd son temps. Et celui qui ne se repose jamais, il s'agite. Il perd le rythme du vivant. Et donc à l'intérieur du rythme du vivant, il y a le repos du vivant. Et le repos du vivant, c'est qu'à l'intérieur du vivant, dans une vision de sagesse, il y a un reflet, le vestige, un reflet de l'immutabilité de Dieu. Dieu, il est immuable dans son être et dans sa vie. C'est ça qui affole l'athéisme évolutionniste. C'est intéressant de voir ça. William Huxley dit Dieu ne peut pas exister parce que si Dieu existe, il n'est pas dans l'évolution. Et il le dit textuellement, si Dieu existe, il n'est pas dans l'évolution. Or, la vie, c'est l'évolution. Et on oublie qu'il y a dans la vie le repos. Il avait compris ça, qu'il avait compris que dans la vie, il y a le repos. Or, un vivant n'est pas défini par l'évolution. Ça, c'est la dialectique du savant qui définit la vie par l'évolution. Le vivant ne se définit pas par l'évolution. Il se définit en tant qu'il est capable de se mouvoir et d'assimiler. Et c'est parce que le vivant est capable d'assimiler qu'il peut se reposer. Vous voyez, tout manque d'assimilation nous fait tomber dans l'agitation. Toujours, tout manque d'assimilation. Un vivant qui n'assimile plus s'agite. Et tombe à ce moment-là, vous voyez, dans une espèce de mouvement perpétuel. Parce qu'il n'y a plus en lui cette assimilation qui lui permet de se reposer. Alors, le dernier moment, dans la lumière de l'immutabilité de Dieu, voir qu'un être spirituel, lui, peut atteindre sa fin et la contempler. D'où le repos de la contemplation. Alors là, c'est l'image de l'immutabilité de Dieu.
Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu.